Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de Contact. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, Zone de Contact est votre nouvelle émission qui vous informe sur le jeu géopolitique mondial. Aujourd'hui, nous allons poser nos valises de l'autre côté de l'océan Atlantique pour une émission spéciale États-Unis. À l'occasion des élections de mi-mandat, Zone de Contact essaiera de vous donner les clés pour comprendre ce scrutin. Et pour se mettre à l'heure américaine, nous allons démarrer par une revue d'actu 100% US et nous prendrons ensuite la direction des États-Unis où l'analyste John Catalinotto nous expliquera les enjeux de ce scrutin. On commence par Politico qui s'intéresse au second tour des élections sénatoriales dans l'État américain de Géorgie. Pour le média, ce territoire est en passe de devenir le centre de l'univers politique au cours des 4 prochaines semaines, républicain ou démocrate. À l'heure où j'énonce ces lignes, le contrôle du Sénat américain est encore indécis avec une nette avancée des républicains. Et c'est dans l'État de Géorgie que pourrait bien se jouer une véritable finale. Le 6 décembre, le sénateur démocrate Raphaël Warnock et le républicain Herschel Walker s'opposeront à nouveau dans les urnes, compte tenu qu'aucun des deux candidats n'a dépassé la barre des 50% de vote lors du scrutin du 8 novembre dernier. Ainsi, le début d'une nouvelle campagne éclair de 4 semaines démarre avec en fond l'ombre de Donald Trump qui plane sur le scrutin. Et pour cause, l'ex-président a laissé entendre qu'il annoncerait sa candidature à la présidentielle de 2024 la semaine prochaine. Pour certains responsables républicains, il s'agit là d'une épine dans le pied. Brian Robinson, un stratège du parti, craint que l'annonce de la candidature de Trump transformerait le second tour en un référendum sur Donald Trump. En vue de cette finale décisive pour le contrôle du Sénat américain, les responsables républicains nationaux ont resserré les rangs derrière leur candidat dans l'État de Géorgie. À suivre. Sur Fox News, le chroniqueur Tucker Carlson a critiqué le système législatif américain en place, car les résultats définitifs des élections de mi-mandat pourraient apparaître seulement un mois plus tard. Des responsables de l'Arizona ont déclaré qu'ils étaient prêts à travailler jusqu'à Noël. Un comble pour le chroniqueur qui a fait le parallèle avec les élections de mi-mandat de 1862 qui se sont tenues à la chandelle, sans électricité et équipement particulier, alors que dans le même temps, une guerre civile secouait les USA. Une situation qui pourrait rappeler, en quelque sorte, des problèmes américains actuels. C'est pourquoi Tucker Carlson considère que la situation est une honte. Le processus de dépouillement est important au même titre que l'application de la loi, l'entretien des routes et la sécurité des frontières. Pour Carlson, les contribuables sont en droit d'exiger des élections efficaces, mais en Arizona, cela semble être différent. Quant à la marée rouge promise par les républicains, elle n'a pas eu lieu. Si les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants, c'est une bonne chose, mais la victoire n'est pas complète. Joe Biden n'a pas eu ainsi la punition qu'il méritait, selon Fox News. Le chroniqueur a expliqué que derrière ce constat d'échec ne peut pas forcément se cacher la politique anti-avortement menée par certains élus républicains, ainsi que la question de Donald Trump. Aujourd'hui, pour Tucker Carlson, il faudrait faire les comptes et regarder qui a été élu. On poursuit avec CBS, qui a rapporté que l'ancien président américain Barack Obama était venu à la rescousse des démocrates. Il avait participé à des rassemblements dans 3 grands états clés afin de sauver les meubles alors que les républicains semblaient en passe de les emporter. Cet engagement n'est pas anodin puisque 53% des électeurs américains inscrits percevraient positivement Obama contre 45% pour Biden. La popularité du président Biden s'érode face à une inflation record et des prix élevés de l'essence qui pèsent sur le budget des citoyens. Cette opération de communication servait à remobiliser les troupes et les inciter à aller voter. Généralement, la participation aux midterms aux USA est en berne. En 2018, seuls 49,3% des électeurs s'étaient déplacés contre 36,7% en 2014. Face à cette éventualité, chaque voix compte pour les démocrates. Samedi dernier en Pennsylvanie, Obama a insisté sur l'importance du scrutin. En 2010, il avait justement perdu ses élections. Toutefois, les républicains n'ont pas lâché leurs efforts pour autant. Donald Trump était présent en Pennsylvanie samedi au même moment que Biden et Obama. Dans la banlieue de Pittsburgh, l'ex-président a parlé d'un pays en déclin sous contrôle démocrate. Il a critiqué la criminalité en hausse, la politique migratoire et a évoqué une guerre contre l'énergie américaine. On termine avec CNN qui a évoqué la présence renforcée des forces de l'ordre dans les bureaux de vote. En Pennsylvanie, les urnes ont été gardées par des policiers armés. Ces derniers ont interrogé les électeurs avant de les laisser glisser leur bulletin. Intimidant pour certains, garant d'une élection propre et juste pour d'autres, cette publication de la chaîne de télévision a montré le climat particulièrement tendu de ce scrutin. Ces derniers jours, le mari de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, a été attaqué au marteau par un homme qui souhaitait s'en prendre à sa femme. L'assaillant, qui a été interpellé, a déclaré aux enquêteurs qu'il souhaitait s'attaquer à d'autres personnalités politiques. Toutefois, les élus démocrates ne sont pas les seuls à avoir été pris pour cible. En octobre dernier, la sénatrice républicaine Susan Collins a déclaré lors d'une interview au New York Times qu'elle ne serait pas surprise si un élu ou un sénateur se faisait tuer. Elle parle en tant que connaisseuse, puisqu'elle a elle-même été prise pour cible. Un individu avait brisé une vitre de son domicile dans l'état du Maine. La tension est montée avant le scrutin où deux Amériques s'opposent. Chez les démocrates, c'est la peur de revoir Donald Trump à la Maison-Blanche en 2024 et la crainte de revivre les événements du Capitole en janvier 2021 qui prédominaient. Du côté des républicains, on s'inquiétait du risque de fraude électorale par les démocrates qui, selon eux, pourrait se reproduire. Trump a d'ailleurs mis de l'huile sur le feu en expliquant le 1er novembre sur son réseau social Truth avoir déjà des preuves de fraude électorale dans l'état de Pennsylvanie dans les votes par correspondance. Pour ne rien arranger, des bureaux de vote en Arizona ont rencontré un problème avec les machines chargées de lire les bulletins. En 2020, des accusations de fraude émanaient de la même région lors de l'élection présidentielle. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Moi, Anthony Lefebvre, j'anime aujourd'hui une émission spéciale sur Zone de Contact consacrée aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Les États-Unis sont profondément fracturés en ce moment sur diverses thématiques. Face aux problèmes d'inflation, d'inégalité raciale et de genre, de crimes, de toxicomanie, d'immigration et de changement climatique, les deux camps se méfient mutuellement et ne parviennent pas à trouver de consensus pour résoudre ces problèmes intérieurs. À ces problèmes internes s'est ajouté le dossier ukrainien qui est devenu une source de tension entre les républicains et les démocrates. Si au début un consensus était là, le soutien à l'Ukraine s'est érodé et de plus en plus d'élus républicains doutent de la pertinence d'envoyer plusieurs milliards de dollars en Ukraine. Fin septembre, ils ont critiqué le manque de soutien financier pour la Floride, touchée par l'ouragan Ian, alors que dans le même temps, les élus démocrates ont approuvé le financement d'une nouvelle tranche d'1,1 milliard de dollars à l'Ukraine. Mais Biden fait face à des dissensions également dans son propre camp. Fin octobre, des élus du Parti démocrate, dont Alexandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar et Pramila Jayapal ont appelé le président à ajuster sa stratégie. Ils lui demandaient de multiplier les efforts diplomatiques et d'engager des pourparlers directs avec Moscou afin de mettre un terme au conflit. Des responsables ont reconnu que la politique économique menée par le Parti démocrate était mauvaise, alors que les USA ont fait face à une inflation record et à une incertitude économique. Ils reprochaient également d'avoir oublié cette thématique au profit de la lutte pour l'avortement, alors que les Américains n'en font pas leur priorité. Selon un sondage de la chaîne de télévision ABC, 84% des Américains sont préoccupés par l'économie devant l'éducation et l'inflation. La question de l'avortement n'arrive qu'en cinquième position. Concernant les élections présidentielles de 2024, seuls 35% des démocrates souhaitent voir Joe Biden gouverner le pays pour un second mandat, alors que ce dernier a fait savoir qu'il voulait bien se représenter. Pour parler plus en détail du scrutin américain de mi-mandat et de sa portée, l'essayiste américain John Catalinotto nous fait le plaisir d'être parmi nous sur Zone de Contact, en direct des États-Unis. Je vous invite à écouter notre entretien.
Bonjour John, merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Bonjour, merci. Vous me contactez pour faire des choses importantes comme ça.
Donc vous êtes en
toujours prêt.
Okay. Vous êtes en direct de New York. Alors, racontez-nous,
oui.
Même s'il n'est pas totalement satisfait, Trump a affirmé que les résultats de ce scrutin est sa victoire. Est-ce que vous êtes d'avis? Est-ce que vous pensez la même chose? Quels enseignements peut-on tirer de ce scrutin globalement?
Je crois qu'il n'y aura pas un grand changement dans la politique états-unienne, la politique internationale états-unienne après ces élections. Et peut-être pas beaucoup de changements ici non plus. Et, j'ai vu que c'est presque le même congrès qu'en avant. On n'était pas sûr qu'il va arriver avec le House of Representatives, les représentatifs, mais je crois que le Sénat va être le même 50-50 avec le vice-président pour décider sur ça. Ça veut dire que ça doit être toujours dans le contrôle des démocrates. Mais même si c'est les républicains, ça ne va être un changement de la politique internationale, je crois.
Très bien.
OK. Autre chose?
On poursuit. La politique extérieure des États-Unis est-elle pour quelque chose dans la nouvelle répartition des voix? Rappelons que des républicains ont exprimé leur mécontentement par rapport à l'aide financière et militaire que Washington fournit sans cesse à l'Ukraine pour doper le conflit russo-ukrainien.
Oui, je crois que ça va rester le même. Ils ont une politique vers l'Ukraine qui était décidée par le CIA, par le ministère extérieur, State Department, Département d'État, par le Pentagone, qui décide. Ils ont figuré beaucoup de stratèges pour la politique extérieure des États-Unis. Et c'est pas la décision d'une seule partie, même si le parti, naturellement, c'est le parti qui contrôle le White House qui va faire la dernière décision. Mais pendant une politique extérieure qui, sur les questions de guerre et paix, c'est décidé par la classe dirigeante en général, et par le représentatif dans l'État. Et je ne crois pas qu'il y a vraiment une différence entre les deux parties dans des choses comme ça. Peut-être le président, quand Trump était président, il a pu faire des choses un peu singulières. Mais enfin, il doit aussi faire des choses qui sont agréables à les gens qui contrôlent la machine de l'État. Et je crois que ça doit rester le même. S'il y a une nouvelle politique pour, par exemple, négocier sur la question ukrainienne, c'est une décision qui a été imposée au gouvernement états-unien par la situation. Parce que peut-être il va l'idée, c'est impossible de gagner la guerre pour l'Ukraine et pour NATO, pour l'OTAN. Et si c'est impossible, il va négocier parce que l'autre choix, c'est de détruire le monde pour risquer une grande guerre qui était. Et il ne veut pas faire quelque chose comme ça. Ça peut être arrivé. Parce qu'il ne peut pas contrôler toutes les choses. Mais pour faire une décision comme ça, c'est suicidaire. Mais je ne crois pas que les élections sont responsables pour. Ils sont responsables pour le changement de cette décision. Entendu, je ne l'ai pas expliqué bien.
Si, tout est clair. C'est juste que je vous laisse vous exprimer. Vous exprimer comme vous. Je vous interromps pas, vous comprenez bien. Je poursuis. Okay. On va revenir au contexte dans lequel s'est déroulée cette élection. En marge du vote, le mari de Nancy Pelosi, donc pour les auditeurs qui nous écoutent, je rappelle que c'est la présidente démocrate de la Chambre des représentants, elle a été agressée et des citoyens armés en Arizona ont surveillé les boîtes aux lettres qui permettaient de voter en avance. L'antagonisme entre démocrates et républicains semble avoir atteint son paroxysme. La possibilité d'assister à des scènes de violence que l'on a vues en janvier 2021 est-elle probable dans les prochains jours?
Moi, je ne crois pas. Toujours la violence est possible, mais les élections enroulées ici sans beaucoup de violence, sans des choses extraordinaires et avec beaucoup moins de combat entre les républicains et les démocrates sur la question de voter et pour compter les votes. Peut-être ça va être un problème en Nevada. C'est par exemple en l'État de Nevada si c'est un changement et les démocrates changent les choses un petit peu et gagner les élections pour le Sénat, peut-être ça va être un problème là. Et aussi les élections en Georgia.
En Géorgie, tout à fait.
Georgia. En Georgie, oui, tout à fait. Il n'a pas décidé. Ça va être une autre élection le 6 de décembre parce que les deux candidats, personne n'a gagné 50%. Et en Georgia, on doit gagner 50% pour gagner.
Oui, tout à fait. C'est
gagner.
Une loi. La loi dans cet État prévoit que quand un candidat a en dessous de 50%, il n'a pas gagné l'élection. Tout à fait.
Oui, oui. C'est comme en 2020. La même chose est arrivée en 2020. Et ça va être notre milliard de dollars qu'on va mettre dans les élections. Ça va être peut-être dur là. Mais il n'y a pas eu beaucoup de violence dans les élections. Pas des élections, presque rien. Il y a une menace contre les électeurs qui votent en avance. Par des petits groupes armés, mais il a dit qu'il va faire attention pour voir s'il n'y a pas d'irrégularités. C'est un mensonge. Il n'y a pas d'irrégularités. Il y a des électeurs qui viennent de la population pauvre, de noir, les républicains veulent les intimider parce qu'ils votent pour la majorité démocrate.
Oui, tout à fait.
Mais
je remarquais justement.
Ça n'a pas été. Ce n'était pas une grande chose dans cette élection.
Tout à fait. Je reviens sur ce terme justement.
Oui.
J'avais remarqué que le vote démocrate concernait essentiellement les minorités noires et les minorités latinos. Tout à fait.
Oui. Oui, plus, c'est pas plus cette partie de la population, c'est aussi beaucoup de travailleurs et beaucoup de les démocrates pour pas se dire en la confiance, mais il y a plus de confiance dans le parti plus pauvre de la société et les minorités. Et dans cette élection, c'est surtout les femmes. Qui était la question importante qui a aidé les démocrates, et c'est les républicains ont annulé le droit d'avortement et le droit de contrôle de reproductif, et ça a décidé beaucoup de surtout des femmes de voter en contre des républicains parce qu'ils ont peur que on va le perdre dans tous les États des États-Unis. C'est une d'être réactionnaire contre les femmes. Et les démocrates ont utilisé cet sentiment pour la plus forte raison pour voter démocrate et contre les républicains. Et même il y a vous pouvez...
Très bien, ok. Alors, je vais rebondir sur le sujet des irrégularités. Vous avez évoqué ce sujet. En Arizona, dans le comté de Maricopa, 20% des bureaux de vote ont rencontré un problème avec les machines chargées de lire les bulletins. En 2020, des accusations de fraude émanaient de la même région, comme par hasard, du même comté. Est-ce qu'il s'agit là d'une étrange coïncidence, selon vous ?
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce ça. Je ne crois pas qu'il y a... beaucoup de vraies irrégularités, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ici, aux États-Unis. Les élections n'est pas bien organisées et surtout, ils ont eu un problème de recruter des personnes qui travaillent sur les bureaux pour les élections. Parce que, comme vous avez dit, il y a eu beaucoup de combattre, de problème et les gens ne veulent pas être dans une position dangereuse pour eux. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas allé bien, mais je ne crois pas qu'il y a fait une différence dans le vote en général. Je ne sais pas, cette question de la région particulière, je ne sais pas. Je n'ai pas autre information sur ça.
D'accord, très bien. J'ai noté qu'il y a eu une enquête nationale qui a été publiée en juillet 2022, selon laquelle 43% des Américains estimaient qu'une guerre civile était possible aux États-Unis dans les prochaines années. Le spectre d'une seconde guerre civile dans l'histoire des États-Unis est-elle à prendre au sérieux, selon vous?
On doit prendre en sérieux la question de violence politique. Mais je ne sais pas, une guerre civile, ça, c'est une autre chose, parce que pour voir une organisation de la première guerre civile, c'est entre le nord et le sud du pays. Le sud était un état esclaviste. Mmh. Et il y a des raisons que les deux classes dirigeantes, les esclavistes et les capitalistes, ont des différences. Et il y a aussi un mouvement pour les Africains qui pour se libérer, et ça a créé une situation très grave entre deux états organisés. Mais ici, pour avoir une guerre civile, je ne sais pas, il y a un problème avec des milices de droite qui est quasiment fasciste, qui est armé, mais ça n'a pas une organisation nationale. C'est surtout c'est un peu la question de le 6 janvier 2021, c'est organisé pour appuyer Trump. L'attaque en Capitole a pu changer l'élection. Ça c'était peut-être un peu comme avec Mussolini et les années 20 de le dernier siècle. Mais pas de guerre civile, parce que pour avoir une guerre civile, on doit armer les deux côtés. Et maintenant, il n'y a pas un côté armé, l'autre côté n'est pas armé. Je ne crois pas que les petites organisations fascistes pour attaquer l'État états-unien qui est très forte. C'est vraiment difficile. Mais on va voir. Il y a ça, pas dans les prochains mois, quelque chose comme ça. Ça doit développer. Après s'il y a, par exemple, un crash économique et beaucoup de gens ne peuvent pas manger assez, et il y a un vrai crash dans l'économie, ça peut mener à un type de guerre civile, mais je ne crois pas dans la situation maintenant, mais tout change. Chaque mois il y a des autres changements, et on doit faire attention. Et pour moi, d'un petit gauche révolutionnaire des États-Unis, on doit, comme on peut, essayer d'organiser la partie de la population travailleuse qui était en mouvement, par exemple les jeunes gens qui organisent un Starbucks ou contre Amazon pour organiser des syndicats. C'est un mouvement progressiste. C'est genre un mouvement qui veut, qui est un peu anticapitaliste. Et c'est possible de les organiser pour défendre contre une attaque par les fascistes. Mais ça n'a pas, à ce moment, nous ne sommes pas à ce niveau de lutte, je crois. C'est mon réponse. Je ne peux pas dire que dans deux mois, il y a des combats dans la rue. Je ne sais pas. Je ne crois pas.
D'accord. Alors, je vais passer à la suite. Le 4 novembre, durant un meeting en Californie, Joe Biden a affirmé qu'il risquait un impeachment en cas de victoire des Républicains. Pouvez-vous expliquer pour nos auditeurs comment fonctionne cette procédure d'impeachment et est-ce que ce scénario est possible?
Oui, c'est un impeachment. C'est un essai pour le destituer de son président. Et on l'a fait deux fois contre Trump. Et c'est le Congrès, House of Representatives, qu'est-ce qu'on dit ça? C'est les représentatifs qui, s'il y a majorité dans le House pour décider, on doit faire des charges contre le président, on peut le faire avec une majorité, on peut dire que Joe Biden est, n'a pas fait de négligence dans n'importe quoi. Mais avec cet impeachment, c'est le Sénat qui décide. Et on a besoin de deux tiers du Sénat pour décider qui est coupable. Et c'est impossible de trouver deux tiers du Sénat pour trouver Joe Biden coupable pour une question politique. On peut faire un impeachment, mais on ne peut pas trouver Biden coupable. C'est comme Trump. On a fait l'impeachment deux fois, mais on a trouvé Trump coupable. So, c'est compliqué parce qu'on doit un impeachment, c'est pour faire des charges. Pour le charger, mais c'est pas le trouver coupable. On doit le trouver coupable avant qu'on puisse le mettre au dos. Expliquer?
Oui, très bien, c'est clair. Je vais passer à la question suivante.
C'est un problème. Naturellement, c'est toujours un problème pour Biden s'il est impeachment, c'est un problème politique parce qu'il doit se défendre. Et il n'a pas le temps de faire un programme politique dans la législature qui est important, qui s'il veut gagner les élections pour le démocrate dans 2024, il doit faire quelque chose pour la population. Il doit utiliser tout son temps pour se défendre pour un impeachment, il ne peut pas faire autre chose. OK.
OK, très bien. Merci, c'était très complet. Je poursuis avec, en octobre dernier, fin octobre, Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine, a achevé un voyage de 4 jours en Afrique de l'Ouest en faisant notamment escale au Mali et au Burkina Faso. Le 2 novembre dernier, Biden a exclu le Burkina Faso de l'accord commercial qui lie les États-Unis avec les pays africains. Comment interprétez-vous ces récents mouvements américains en Afrique?
Ok, je crois aussi que, comme en Afrique, comme en tout le monde, les stratèges états-uniennes ont décidé pendant des années, pendant des décennies, pour prendre contrôle comme ils puissent sur le continent. Ils ont Africom, c'est une organisation, c'est pas très forte comme l'OTAN, mais c'est l'armée états-unienne en Afrique, c'est de Africom. L'armée des États-Unis, le Pentagone, a des bases pour tout en Afrique, dans beaucoup de pays en Afrique. Il a son force aérienne. Il peut bombarder l'Afrique quand il y a quelque chose en Afrique qui va en contre des intérêts des grandes sociétés, des monopoles états-uniens, contre la stratégie la politique impérialiste états-unienne en Afrique en pouvant devenir avec l'armée. Victoria Nuland, elle est un criminel de guerre. Elle est une des Cold Warriors, you know, une ancienne combattue de la guerre froide. Et elle a intervenu en Ukraine en 2013 et 2014. Pour renverser le gouvernement qui était plus proche à Russie à ce moment. Et ils ont fait un coup et ils ont utilisé les organisations fascistes pour déposer cet ancien gouvernement ukrainien et mettre au gouvernement un gouvernement qui était plus contre la Russie, plus hostile et a créé une situation qui a mené à la guerre. Mais elle est un je dis que Nuland est un criminel de guerre. Et si elle est allée à Afrique, et c'est pour faire la politique des États-Unis en Afrique. Mais je ne sais pas s'il y aura un grand changement dans la politique états-unis en Afrique. Je ne sais pas si ça va arriver à une intervention plus grande à ce moment. C'est une grande décision de faire quelque chose comme ça. C'est possible, mais je ne sais pas si c'est nécessaire. Il y a des problèmes en Afrique, mais c'est pas un vrai défi à les impérialistes à ce moment. Peut-être pour la concurrence avec les autres impérialistes en Afrique, c'est important pour les États-Unis. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu très proche sur cette question, qu'est-ce qu'elle est arrivée à faire. Mais je sais, et même en Afrique, Biden et Obama, les deux ont appliqué la même politique pro-états-unienne, pro-impérialiste à tout le continent africain. Et Trump, il a utilisé la même politique, mais Trump a insulté les Africains. C'est ça la différence. Mais la politique, ça reste la même. C'est la politique impérialiste états-unienne en Afrique. Je ne sais pas s'il y a une autre, des nouvelles choses, mais je vais le chercher un peu, parce que vous m'avez demandé ça, je vais chercher un peu qu'est-ce qu'elle a fait. Mais est-elle associée à Taïwan? Je ne sais pas, Pelosi est allée à Taïwan, ou c'est la politique contre la Chine. Mais c'est ça, ok.
Ok, très bien. Alors, de nombreux pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, ainsi que des alliés fidèles comme l'Arabie saoudite, ont refusé d'adopter des sanctions contre la Russie. À l'OPEP, l'appel des USA à augmenter la production de pétrole s'est soldé par un échec. Le monde unipolaire dominé par les États-Unis prend-il fin réellement selon vous?
Je ne sais pas, j'espère. J'espère parce que c'est une situation impossible dans le monde pour les États-Unis essaient de rester en contrôle complet du monde comme les États-Unis avaient fait entre 1990 et 2010. Les États-Unis était presque dominante dans tout le monde. Mais les derniers 10 ans, avec le développement de l'économie à Chine et avec des changements en Russie pour être plus indépendante de l'Ouest, avec des choses dans un pays comme l'Iran. Ça a créé une situation, c'est le moins possible pour les États-Unis de contrôler tout le monde. Et c'est une bonne chose. Et peut-être le gouvernement états-unien n'a pas adapté à cette nouvelle situation. Parce que dans un monde capitaliste qui se développe tout le temps, il y a toujours des changements. L'histoire, c'est des changements. Et on ne peut arrêter ce changement. On doit adapter à ça. Mais si les États-Unis ne peuvent pas adapter les changements pour rester moins en contrôle de tous, mais ça va être des problèmes parce que ça peut mener à des guerres très, très, beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui. Il y a des guerres aujourd'hui, naturellement, en Ukraine, en Afrique, en autre partie du monde aussi, je crois, mais le plus dangereux, c'est en Ukraine à ce moment, mais ça peut changer d'aujourd'hui à demain s'il y a un combat entre Chine et États-Unis dans la mer entre Taïwan et Chine ou quelque chose comme ça. C'est dangereux si le gouvernement états-unien essaie de rester en contrôle complet dans le monde. Mais sur la question que ces pays, il n'a pas décidé de accepter les sanctions, c'est bien. C'est pour avoir un peu d'indépendance et c'est mieux pour ces économies. Mais moi, je n'ai pas confiance dans le gouvernement d'Arabie Saoudite ou même d'Inde pour avoir une politique cohérente anti-états-unienne. Ça dépend du moment et des intérêts à un moment. Parce que tous ces gouvernements représentent des classes dirigeantes qui ont des intérêts pour maximiser leurs bénéfices. Pour le bien de tous les pauvres, de tous les travailleurs, on ne peut pas avoir confiance dans les gouvernements des pays. On doit s'organiser. On a eu une grande expériment dans le 20e siècle avec l'Union soviétique qui a été qui reste toujours un modèle pour la possibilité de changer le monde d'un monde de personnes qui sont toutes égales. Mais ça n'existe à ce moment et le monde est devenu plus dangereux et pire pour beaucoup de monde. Mais ça doit rester dans notre conscience comme une possibilité de mener à un monde beaucoup plus beau. OK?
D'accord. Alors, face à l'émergence d'un monde multipolaire, il semble difficile de voir les États-Unis se laisser faire. Comment Washington peut riposter afin de sauvegarder son leadership?
J'ai dit ça. Le problème, par exemple, ils ont utilisé la guerre en Ukraine. Ils ont provoqué le gouvernement des États-Unis a provoqué la guerre en Ukraine. Et après, il y a une guerre entre Russie et Ukraine. Ils ont utilisé cette guerre pour mobiliser les États européens en OTAN ou pas en OTAN pour contrôler la dominance états-unienne. Et ça a réussi jusqu'à un point. Ça n'a pas réussi en Afrique et Asie et Amérique latine, mais ça a réussi en Europe. Pour le moment, parce qu'on peut voir, par exemple, le gouvernement allemand vraiment faire des décisions qui a l'apparence d'être contre les intérêts de l'économie allemande. Mais pour rester dans le même camp, pour rester à côté des États-Unis, pour rester dans l'OTAN, pour rester en alliance avec tous les impérialistes, le gouvernement allemand a décidé de faire des sanctions contre la Russie ou de pas utiliser le gaz dans le Nord Stream. Donc c'est une action du gouvernement états-unien pour utiliser la guerre pour mobiliser toutes ses forces qui a la possibilité d'être plus indépendante des États-Unis. Allemagne, le plus grand
grand allié des
c'est pas allié parce que il fait beaucoup de business avec China, avec la Chine.
Mm-hmm.
C'est le partenaire économique de l'Allemagne, c'est la Chine. C'est plus important. Mais, j'ai oublié qu'est-ce que je veux dire. C'est la possibilité qu'il y a toujours une possibilité d'avoir un partenaire économique avec la Russie et l'Allemagne. C'est l'histoire de derniers 150 ans. C'est possible d'avoir une alliance, mais toujours ça a rompu. L'alliance n'a pas
fonctionné. Elle n'a pas fonctionné. On a eu des tentatives entre la Russie et l'Europe de se rapprocher et qui se sont soldées par un échec. Je me souviens du général de Gaulle qui parlait d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural. On sait très bien que ça ne s'est pas fait.
Parce que c'est toujours la politique états-unienne pour mettre l'Europe sous son contrôle pour tromper n'importe quelle relation entre l'Europe de l'Ouest et la Russie ou l'Europe en général et la Chine. Et ça, c'est des problèmes. Mais moi, je vois le monde pas seulement dans une vision géostratégique comme ça. Je peux le voir comme ça, mais c'est aussi une lutte de classe qui reste dans le monde, même après l'Union soviétique. La lutte de classe reste et il y a maintenant en Europe, il y a beaucoup de gens qui vont avoir un hiver très difficile, tant gaz russe et toute la vie est devenue très chère. Il va avoir des grandes grèves. Il y a toujours des grèves grandes en Angleterre, et en France. Et ça va, il y a possibilité des grèves en Allemagne aussi. C'est nécessaire pour les gens qui est vraiment contre la guerre, qui d'organiser comme on peut cette classe ouvrière qui veut assez manger et qui ne veut pas avoir une guerre. C'est ça qui peut arrêter cette guerre et pour aider et impulser des négociations pour avoir un cessez-le-feu et pour négocier une fin de la guerre. C'est ça, je pense que des choses comme ça. Pour arrêter le gouvernement des États-Unis d'essayer de contrôler le monde, on doit développer aussi aux États-Unis une lutte contre cette guerre et contre la politique de guerre. C'est très difficile ici, comme vous savez, Mais pour nous, c'est notre espoir de organiser les jeunes gens et pour le changer dans un mouvement vraiment anti-guerre et anti-capitaliste. Même si ce n'a pas, c'est difficile de voir la possibilité de quelque chose comme ça, c'est notre espoir.
Très bien. Je vais terminer par une dernière question. Quelle chance pour le retour glorieux de Donald Trump dans la lutte pour la prochaine présidence, vu qu'il est attaqué toujours juridiquement? Il avait annoncé qu'il préparait une grande annonce très prochainement, et cela d'ailleurs pourrait gêner le scrutin du 6 novembre en Géorgie. Ça pourrait causer, par ce fait, un référendum contre le candidat démocrate qui brigue le Sénat. Donc, que pensez-vous de ce retour de Donald Trump? Est-ce que c'est probable ou non? Pour vous, est-ce que c'est jouable ou pas du tout?
Moi, je crois que tout est possible ici. Et c'est possible, et c'est parce que Donald Trump, même s'il est en situation pour Donald Trump, pour lui, est difficile à ce moment, parce qu'il n'y a pas de bons résultats dans les midterms pour Donald Trump. Mais il n'y a pas même toujours mauvais pour lui aussi. Et il a toujours une grande popularité dans des secteurs de la population assez grande. Parce que pour moi, c'est impossible de croire qu'il y a millions de gens qui pour croire qu'il était un vrai politicien cohérent. Mais c'est pas nécessaire. Il était une figure, il était il est connu par tout le monde. Mais il y a des grands problèmes à ce moment. C'est aussi dans son parti, dans les Républicains, il y a des concurrences. Il y a le gouverneur de Floride, qui est, il est à droite comme Trump.
Tout à fait, DeSantis, dont on parlait, qu'il pourrait être justement le successeur justement de Donald Trump pour 2028. On en parlait justement de DeSantis.
Oui, DeSantis est bien un concurrent de Trump qui a gagné son élection avec 1 million de votes, oui. Et je dois dire que cette élection qui est importante pour les auditeurs, on a utilisé 17 milliards de dollars pour combattre cette élection. Ça veut dire, pour la plupart, que les gens riches et les sociétés riches aux États-Unis qui ont investi dans les candidats 17 milliards, 1000 millions, de dollars dans les élections. C'est toujours l'argent qui décide beaucoup. C'est toujours et la politique, la propagande de la droite dans les élections est terriblement droitiste, raciste, pro-police. Ils ont inventé une vague de crimes, de criminalité qui n'existe pas, mais ils sont invités pour attaquer les gens qui veulent contrôler la brutalité de la police. Et en même temps, les démocrates n'ont pas combattu vraiment avec une propagande gauche, de la gauche, une propagande pour défendre les travailleurs, pour défendre les minorités. Ils n'ont pas fait beaucoup contre ça. Ils ont dit, on doit voter pour nous pour défendre la démocratie. Donc, les élections comme ça aux États-Unis, on parle de démocratie, mais c'est vraiment une opportunité pour la classe dirigeante d'imposer son propagande à la population. En même temps, on doit voter parce que c'est notre droit.
Oui, parce que c'est un devoir de citoyen, oui.
On, On ne peut pas croire que c'est vraiment démocratique aux États-Unis. C'est pas, même pas comme on, c'est pire en Europe, mais au moins, il y a des 5 partis qui représentent des côtés différents de la société et on peut voter pour le parti qu'on veut. Ici, c'est les républicains, les démocrates, on n'a pas beaucoup de choix. Ok, mais oui. Vous avez...
Oui, tout à fait, je vais prendre par exemple... Pour les auditeurs, je vais prendre l'exemple de la France pour expliquer. Certes, pendant quelques années, on a eu le clivage gauche-droite entre le Parti socialiste et parti de droite français qui s'appelle les Républicains. Mais on avait le choix avec d'autres partis. On pouvait voter pour les communistes. Il y avait évidemment le Front National. On pouvait aussi bien voter pour les écologistes. Mais il y avait toute une myriade de partis. Et on peut voir d'ailleurs dans le Parlement français, dans sa composition d'aujourd'hui, que malgré ce que l'on peut dire, tous ces différents partis sont représentés à l'issue du résultat des dernières élections législatives. Donc oui, tout à fait, je vous rejoins sur ce point.
Oui, c'est différent et même plus dans les années. Quand j'ai fait attention aux élections en France dans les années 70 ou les années... Oui, les années 70, quand les communistes ont gagné 18% des votes. Et une grande représentation dans ça a influencé beaucoup la politique de gouvernement, ou même la politique sociale dans le pays. Il reste toujours, il y a une sécurité sociale qui reste. La politique sanitaire qui reste. Même si c'est attaqué maintenant par un gouvernement comme le gouvernement de Macron. Mais, ok.
Voilà, ok. Donc, c'est sur ces mots que on va mettre fin à cette interview. Je vous remercie, John, d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
Merci pour m'inviter.
C'était John Catalinotto, il nous a parlé depuis New York sur les enjeux des élections de mi-mandat américaines. Chers auditeurs, zone de contact, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. D'ici là, portez-vous bien.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.